is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.
Bonjour. Bonjour à toutes et tous, auditrices et auditeurs de Radio Galère. Pour cette émission Livres et Amis du mercredi 2 novembre 2022. Au micro, Dominique et Françoise. On est en vacances, enfin des vacances pour les jeunes, et pour nous, retour à l'actualité du mois d'octobre avec cette émission que je vous avais annoncée sur le prix Nobel de littérature destiné à Annie Ernaux à la mi-octobre justement. Nous voulions lui consacrer une émission, puisque c'est depuis longtemps une des autrices que nous aimons sur le plan littéraire et que nous apprécions sur le plan humain, sur le plan de l'engagement. Chez Annie Ernaux, l'écriture et l'engagement sont indissociables. Certains critiques lui ont même reproché d'écrire des romans sociologiques. Alors, roman sociologique, pourquoi pas ? Roman de son époque, oui. Personnage de son temps, oui, sûrement. Et pour affirmer cette relation étroite entre les problèmes de société, l'autrice, les lectrices et les lecteurs, nous avons choisi L'événement. L'événement, roman écrit par Annie Ernaux en 1999, d'après des notes autobiographiques de 1963. L'événement, en 1963, dans la vie de la jeune Annie Duchesne, qui n'est pas encore Annie Ernaux, c'est sa grossesse, une grossesse non désirée, et la recherche d'un avortement, clandestin bien sûr, à l'époque. Le roman L'événement, c'est, 35 ans après, le récit d'une femme qui se remémore ces 3 mois indélébiles de sa vie et qui nous fait part dans l'élan d'une nécessité impérieuse de ce témoignage. Une nécessité impérieuse que bien des femmes ont partagée. Avant d'en venir au roman lui-même, je vais vous lire une lettre de lectrice qu'a reçue Annie Ernaux et qui dit très bien l'actualité brûlante et permanente de l'événement. Que lui écrit la lectrice ? Aux 6 juges de la Cour suprême des États-Unis, 6 contre 3, qui ont statué que la Constitution américaine ne confère pas le droit à l'avortement. Au gouvernement hongrois, qui a fait inscrire dans la Constitution que la vie humaine est protégée depuis la conception. Au Parlement polonais, qui n'autorise l'avortement qu'en cas de danger pour la mère ou de viol. Et aux milliers d'autres législateurs qui s'arrogent un droit absolu sur le corps, le choix et la vie des femmes, apprenez qu'une femme qui veut avorter le fera. Dans la clandestinité, l'illégalité, le danger de mort, quels que soient les risques encourus, elle avortera. Elle avortera. L'immense obstination à avorter n'a jamais été aussi bien traduite que par Annie Ernaux. Son événement, en 1963, elle l'a porté en elle pendant plus de 30 ans, jusqu'à l'écriture de ce livre, en 1999, et elle en reconstitue avec minutie les épisodes, grâce à ses notes d'alors, agenda, journal intime, avec une admirable sincérité. Et avec une acuité terrible, elle analyse même la différence de traitement entre son statut d'étudiante et celui d'une vendeuse de Monoprix. Même si la sororité du malheur existe et ou existait, la classe ouvrière, sans argent, sans respect, souffrait et souffre encore bien davantage. Choisir une citation, j'aurais voulu vous recopier tout le livre. À l'annonce de son prix Nobel, j'ai filé emprunter 3 œuvres d'Annie Ernaux à la bibliothèque. Et j'ai commencé par L'événement. Sans images, sans musique, ce roman, ces mots nus, m'ont bouleversé encore bien davantage qu'un film ou que le film adapté du livre. Et en parlant de film, donc là c'est plus la citation de la lectrice, c'est moi Dominique qui vous parle. En parlant de film, nous verrons que à la fin du mois, il faudra aller voir à partir du 30 novembre très précisément Annie Colère. Annie Colère, c'est un film de Blandine Lenoir qui donc sort le 30 novembre et qui concerne les combats du MLAC, précisément sur la liberté de l'avortement et la revendication de la liberté à l'avortement. Mais revenons vers le roman pour partager l'émotion que cette lectrice nous a dit avoir éprouvée à la lecture. Le récit commence, on l'a vu, en 1999. La narratrice va chercher à l'hôpital le résultat d'un test anonyme de dépistage du sida et cette situation la ramène 35 ans en arrière.
La docteure a appelé mon numéro. Avant même que je sois à l'intérieur du bureau, elle m'a souri largement. J'ai pris cela comme un bon signe. En refermant la porte, elle a dit très vite « c'est négatif ». J'ai éclaté de rire. Ce qu'elle a dit ensuite, dans l'entretien qui ne m'intéressait pas, elle avait l'air joyeux et complice. J'ai descendu l'escalier à toute vitesse, refait le trajet en sens inverse, sans rien regarder. Je me disais que j'étais sauvée. Je me suis rendu compte que j'avais vécu ce moment à la Riboisière de la même façon que l'attente du verdict du docteur N en 1963, dans la même horreur et la même incrédulité. Ma vie se situe donc entre la méthode Ogino et le préservatif à 1 franc dans les distributeurs. C'est une bonne façon de la mesurer, plus sûre que d'autres même. Au mois d'octobre 1963 à Rouen, j'ai attendu pendant plus d'une semaine que mes règles arrivent. C'était un mois ensoleillé et tiède. Je me sentais lourde et moite dans mon manteau ressorti trop tôt, surtout à l'intérieur des grands magasins où j'allais flâner, acheter des bas en attendant que les cours reprennent. En rentrant dans ma chambre à la Cité universitaire des filles, rue d'Herbouville, j'espérais toujours voir une tache sur mon slip. J'ai commencé d'écrire sur mon agenda tous les soirs, en majuscules et souligné « rien ». La nuit, je me réveillais. Je savais aussitôt qu'il n'y avait rien. L'année d'avant, à la même époque, j'avais commencé d'écrire un roman. Cela m'apparaissait très lointain et comme ne devant jamais se reproduire. Un soir, je me suis laissée entraîner au théâtre par des filles de la cité qui avaient un billet en trop. On jouait 8 clos et je n'avais jamais encore vu de pièce contemporaine. La salle était comble. Je voyais la scène lointaine, violemment éclairée, en pensant sans arrêt que je n'avais pas mes règles. Je ne me souviens que du personnage d'Estelle, blonde en robe bleue, et du garçon habillé en larbin, avec des yeux rouges et sans paupières. J'ai écrit dans l'agenda « Formidable, si seulement je n'avais pas cette réalité dans mes reins ». Fin octobre, j'ai cessé de croire qu'elle pourrait revenir. J'ai pris rendez-vous chez un gynécologue, le docteur N, pour le 8 novembre.
Oui. Et donc, Annie Ernaux reprend la parole. Depuis des années, je tourne autour de ces événements de ma vie. Lire dans un roman le récit d'un avortement me plonge dans un saisissement sans image ni pensée, comme si les mots se changeaient instantanément en sensations violentes. De la même façon, entendre par hasard la javanaise, « J'ai la mémoire qui flanche », Dominique, Koenig, Koenig, n'importe quelle chanson qui m'a accompagnée durant cette période me bouleverse. Il y a une semaine que j'ai commencé ce récit sans aucune certitude de le poursuivre. Je résistais sans pouvoir m'empêcher d'y penser. M'y abandonner me semblait effrayant. Mais je me disais aussi que je pourrais mourir sans avoir rien fait de cet événement. S'il y avait une faute, c'était celle-là. Une nuit, j'ai rêvé que je tenais entre les mains un livre que j'avais écrit sur mon avortement, mais on ne pouvait le trouver nulle part en librairie et il n'était mentionné dans aucun catalogue. En bas de la couverture, en grosses lettres, figurait « épuisé ». Je ne savais pas si ce rêve signifiait que je devais écrire ce livre ou qu'il était inutile de le faire. Je veux imaginer, à nouveau, dans cette période de ma vie, je veux m'immerger dans cette période, je veux savoir ce qui a été trouvé là. Et cette exploration s'inscrira dans la trame d'un récit, seul capable de rendre un événement qui n'a été que du temps au-dedans et au-dehors de moi. Un agenda et un journal intime tenu pendant des mois m'apporteront les repères et les preuves nécessaires à l'établissement des faits. Je m'efforcerai par-dessus tout de descendre dans chaque image jusqu'à ce que j'aie la sensation physique de la rejoindre et que quelques mots surgissent dont je puisse dire « c'est ça ». D'entendre à nouveau chacune de ces phrases indélébiles en moi, dont le sens devait être alors si intenable ou à l'inverse si consolant que les pensées aujourd'hui me submergent de dégoût ou de douceur. Que la forme sous laquelle j'ai vécu cette expérience de l'avortement, la clandestinité, relève d'une histoire révolue, ne me semble pas un motif valable pour la laisser enfouie. C'est justement parce qu'aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessairement simplifiées, affronter dans sa réalité cet événement inoubliable. Oui, et on l'a vu aussi dans la lettre de la jeune lectrice. En fait, peut-être qu'on ne réprouve plus d'écrire sur l'avortement, mais en tout cas, il y a bien des pays où la liberté de l'avortement est encore vraiment mise en danger. Revenons
même
à l'histoire.
Remise en danger, oui, comme aux États-Unis. Le vendredi 8 novembre, alors que je me dirigeais vers la place de l'hôtel de ville pour prendre un bus et me rendre chez le docteur N, rue Lafayette, j'ai rencontré Jacques S, un étudiant en lettres, fils d'un directeur d'usine de la région. Il voulait savoir ce que j'allais faire rive gauche. J'ai répondu que j'avais mal à l'estomac et que je consultais un stomatologue. Il m'a reprise catégoriquement. Le stomatologue ne soigne pas l'estomac, mais les infections de la bouche. Craignant qu'il ne soupçonne quelque chose en raison de ma bourde et qu'il ne veuille m'accompagner jusqu'à la porte du médecin, je l'ai quitté brusquement à l'arrivée du bus. Juste au moment où je descendais de la table, mon gros pull vert retombant sur mes cuisses, le gynécologue m'a dit que j'étais sûrement enceinte. Ce que je prenais pour un mal à l'estomac, c'était la nausée. Il m'a tout de même prescrit des piqûres pour faire revenir les règles, mais il n'avait pas l'air de croire qu'elles auraient de l'effet. Sur le pas de la porte, il souriait jovialement. « Les enfants de l'amour sont toujours les plus beaux. » C'était une phrase affreuse. Je suis rentrée à pied à la cité universitaire. Dans l'agenda, il y a « Je suis enceinte, c'est l'horreur. » Début octobre, j'avais fait l'amour plusieurs fois avec P, un étudiant de sciences politiques, que j'avais rencontré pendant les vacances et que j'étais allée revoir à Bordeaux. Je me savais dans une période à risque, selon le calendrier OGINO de contrôle des naissances, mais je ne croyais pas que ça puisse prendre à l'intérieur de mon ventre. Dans l'amour et la jouissance, je ne me sentais pas un corps intrinsèquement différent de celui des hommes. L'infirmière du Crous m'a fait une piqûre le soir, sans commentaire, et une autre le lendemain matin. C'était le week-end du 11 novembre. Je suis retournée chez mes parents. À un moment, j'ai eu un rapide et bref écoulement de sang rosâtre. J'ai déposé le slip et le pantalon de toile tachée sur le tas de linge sale, bien en évidence. Agenda. Un épanchement sans suite. De quoi donner le change à ma mère. De retour à Rouen, j'ai téléphoné au docteur N. Il m'a confirmé mon état et annoncé qu'il m'envoyait mon certificat de grossesse. Je l'ai reçu le lendemain. Accouchement de Mademoiselle Annie Duchesne, prévu le 8 juillet 1964. J'ai vu l'été, le soleil, j'ai déchiré le certificat. J'ai écrit à P que j'étais enceinte et que je ne voulais pas le garder. Nous nous étions quittés incertains sur la suite de notre relation. Et j'éprouvais de la satisfaction à troubler son insouciance, même si je n'avais aucune illusion sur le profond soulagement que lui causerait ma décision d'avorter. Une semaine après, Kennedy a été assassiné à Dallas. Mais ce n'était déjà plus quelque chose qui pouvait m'intéresser.
À partir de novembre 1963, donc, la vie d'Annie Duchesne n'est plus que cette certitude, cet événement. Je suis enceinte, je ne veux pas le garder. La narratrice, autour du vécu personnel du personnage, dresse un tableau de la sexualité de la femme en 1963. On vient d'abord d'avoir un aperçu avec le médecin et on continue.
Le temps a cessé d'être une suite insensible de jours à remplir de cours et d'exposés, de stations dans les cafés et à la bibliothèque, menant aux examens et aux vacances d'été, à l'avenir. Il est devenu une chose informe qui avançait à l'intérieur de moi et qu'il fallait détruire à tout prix. J'allais aux cours de littérature et de sociologie, au resto U, je buvais des cafés midi et soir à la Faluche, le bar réservé aux étudiants. Je n'étais plus dans le même monde. Il y avait les autres filles avec leur ventre vide et moi. Pour penser ma situation, je n'employais aucun des termes qui la désignent, ni « j'attends un enfant », ni « enceinte », encore moins « grossesse », voisin de grotesque. Il contenait l'acceptation d'un futur qui n'aurait pas lieu. Ce n'était pas la peine de nommer ce que j'avais décidé de faire disparaître. Dans l'agenda, j'écrivais « ça, cette chose-là », une seule fois « enceinte ». Je passais de l'incrédulité que cela m'arrive à moi à la certitude que cela devait forcément m'arriver. Cela m'attendait depuis la première fois que j'avais joui sous mes draps, à 14 ans, n'ayant jamais pu ensuite, malgré des prières à la Vierge et différentes saintes, m'empêcher de renouveler l'expérience, rêvant avec persistance que j'étais une pute. Il était même miraculeux que je ne me sois pas trouvée plus tôt dans cette situation. Jusqu'à l'été précédent, j'avais réussi au prix d'efforts et d'humiliation, être traitée de salope et d'allumeuse, à ne pas faire l'amour complètement. Je n'avais finalement dû mon salut qu'à la violence d'un désir qui, s'accommodant mal des limites du flirt, m'avait conduite à redouter jusqu'au simple baiser. J'établissais confusément un lien entre ma classe sociale d'origine et ce qui m'arrivait. Première à faire des études supérieures dans une famille d'ouvriers et de petits commerçants, j'avais échappé à l'usine et au comptoir. Mais ni le bac, ni la licence de lettres n'avaient réussi à détourner la fatalité de la transmission d'une pauvreté dont la fille enceinte était au même titre que l'alcoolique, l'emblème. J'étais rattrapée par le cul. Ce qui poussait en moi, c'était d'une certaine manière l'échec social. Je n'éprouvais aucune appréhension à l'idée d'avorter. Cela me paraissait sinon facile, du moins faisable, et ne nécessitant aucun courage particulier. Une épreuve ordinaire. Il suffisait de suivre la voie dans laquelle une longue cohorte de femmes m'avait précédée. Depuis l'adolescence, j'avais accumulé des récits, lus dans des romans, apporté la rumeur du quartier dans les conversations à voix basse. J'avais acquis un savoir vague sur les moyens à utiliser, l'aiguille à tricoter, la queue de persil, les injections d'eau savonneuse, l'équitation, la meilleure solution consistant à trouver un médecin dit « marron » ou une femme au joli nom de faiseuse d'ange, l'un et l'autre très coûteux, mais je n'avais aucune idée des tarifs. L'année d'avant, une jeune femme divorcée m'avait raconté qu'un médecin de Strasbourg lui avait fait passer un enfant sans me donner de détails, sauf « j'avais tellement mal que je me cramponnais au lavabo ». J'étais prête à me cramponner moi aussi au lavabo. Je ne pensais pas que je puisse en mourir. 3 jours après avoir déchiré le certificat de grossesse, j'ai rencontré dans la cour de la fac Jean T, un étudiant marié et salarié pour qui 2 ans auparavant, j'avais pris un cours sur Victor Hugo auquel il ne pouvait assister. Sa parole fougueuse et ses idées révolutionnaires me convenaient. Nous sommes allés boire un pot place de la gare au Métropole. À un moment, je lui ai dit sous une forme détournée que j'étais enceinte. 2 jours plus tard, je l'ai revu à son bureau et il m'a emmené manger dans une brasserie sur les quais, près de la gare routière, dans un quartier démoli pendant la guerre, reconstruit en béton, où je n'allais jamais. Il m'a parlé ensuite des B, un couple marié dont la femme avait eu un avortement 2 ou 3 ans auparavant. Elle a failli en crever d'ailleurs. Il n'avait pas l'adresse des B, mais je pourrais contacter LB dans le journal où elle travaillait comme pigiste. Je la connaissais de vue, pour avoir suivi avec elle un cours de philologie, une fille petite et brune avec de grosses lunettes d'aspect sévère. Lors d'un exposé, elle avait reçu un vif éloge du prof. Qu'une fille comme elle ait eu un avortement me rassurait. Dans l'agenda, manger avec thé sur les quais, les problèmes s'amoncellent. 2 soirs de suite, j'ai attendu. LB devant Paris-Normandie. Je n'osais pas entrer et demander si elle était déjà arrivée. J'avais peur qu'on trouve ma démarche suspecte et plus encore de déranger LB sur son lieu de travail pour quelque chose dont elle avait failli crever. Le second soir, il pleuvait. J'étais seule dans la rue sous mon parapluie, lisant machinalement les feuilles du journal punaisé dans un panneau grillagé contre le mur, regardant alternativement les 2 bouts de la rue de l'hôpital. LB était quelque part dans Rouen. Elle était la seule femme qui pouvait me sauver et elle ne venait pas. De retour à la cité, dans mon agenda, attendu encore LB sous la pluie. Absente, je suis désespérée. Il faut que cette chose-là parte. Je n'avais aucun indice, aucune piste. Si beaucoup de romans évoquaient un avortement, ils ne fournissaient pas de détails sur la façon dont cela s'était exactement passé. Entre le moment où la fille se découvrait enceinte et celui où elle ne l'était plus, il y avait une ellipse. Un après-midi, je suis partie de la cité avec l'intention de découvrir un médecin qui accepterait de m'avorter. Cet être-là devait bien exister quelque part. Rouen était devenue une forêt de pierres grises. Je scrutais les plaques dorées, me demandant qui je trouverais derrière. Je ne me décidais pas à sonner, j'attendais un signe.
Mais le signe ne vient pas. L'errance, les doutes, les hésitations continuent avec le rappel des condamnations que risquent celles ou ceux qui ont recours à l'avortement, celles ou ceux qui le pratiquent. Allons voir encore ce qui se dit à l'époque. Les filles comme moi gâchaient la journée des médecins, sans argent et sans relation. Sinon, elle ne serait pas venue échouer à l'aveuglette chez eux. Elle les obligeait à se rappeler la loi qui pouvait les envoyer en prison et leur interdire d'exercer pour toujours. Ils n'osaient pas dire la vérité, qu'ils n'allaient pas risquer de tout perdre pour les beaux yeux d'une demoiselle assez stupide pour se faire mettre en cloque. À moins qu'ils n'aient sincèrement préféré mourir plutôt que d'enfreindre une loi qui laissait mourir les femmes. Mais tous devaient penser que même si on les empêchait d'avorter, elles trouveraient bien un moyen. En face d'une carrière brisée, une aiguille à tricoter dans le vagin ne pesait pas lourd. Et comme d'habitude, il était impossible de déterminer si l'avortement était interdit parce que c'était mal ou si c'était mal parce que c'était interdit. On jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi. Et pour Annie, les hésitations, la vie universitaire continue, mais bien difficilement.
Je continuais d'aller aux cours, à la bibliothèque. J'avais choisi pendant l'été, avec enthousiasme, un sujet de mémoire portant sur la femme dans le surréalisme. Maintenant, il ne me paraissait pas plus intéressant que la coordination en ancien français ou les métaphores dans l'œuvre de Chateaubriand. Je lisais avec indifférence les textes d'Éluard, de Breton et d'Aragon, célébrant des femmes abstraites, médiatrices entre l'homme et le cosmos. Ça et là, je notais une phrase qui se rapportait à mon sujet, mais je ne savais rien faire des notes que j'avais prises et je me sentais incapable de remettre au prof le plan et le premier chapitre qu'il m'avait réclamé. Relier des connaissances entre elles et les intégrer dans une construction cohérente était au-dessus de mes forces. Dans mon agenda, je n'écris plus, je ne travaille plus. Comment sortir de là? J'avais cessé d'être intellectuelle. Je ne sais si ce sentiment est répandu, il cause une souffrance indicible.
Donc, en raison de l'échec de ses recherches d'un praticien, Annie envisage d'intervenir elle-même.
Comme la plupart des parents, les miens s'imaginaient détecter infailliblement au premier coup d'œil le moindre signe de dérive. Pour les rassurer, il suffisait d'aller les voir régulièrement avec le sourire et un visage lisse, apporter son linge sale et remporter des provisions. Un lundi, je suis revenue de chez eux avec une paire d'aiguilles à tricoter que j'avais achetée un été pour me faire une veste restée inachevée. De grandes aiguilles, bleues électriques. Je n'avais pas de solution, j'avais décidé d'agir seule. La veille au soir, je suis allée voir Mein Kampf avec des filles de la cité. J'étais dans une grande agitation et je pensais sans cesse à ce que j'allais faire le lendemain. Le film me ramenait cependant à une évidence. La souffrance que j'allais m'infliger n'était rien auprès de celle subie dans les camps d'extermination. J'en tirais du courage et de la détermination. Savoir aussi que je m'apprêtais à faire ce que des quantités d'autres avaient déjà fait me soutenait. Le lendemain matin, je me suis allongée sur mon lit et j'ai glissé l'aiguille à tricoter dans mon sexe avec précaution. Je tâtonnais sans trouver le col de l'utérus et je ne pouvais m'empêcher d'arrêter dès que je ressentais de la douleur. Je me suis rendu compte que je n'y arriverais pas seule. Après mon essai infructueux, j'ai téléphoné au docteur N. Je lui ai dit que je ne voulais pas le garder et que je m'étais abîmée. C'était faux, mais je voulais qu'il sache que j'étais prête à tout pour avorter. Je pensais qu'il luttait encore et qu'il allait céder. Il a relevé la tête. « Je ne veux pas savoir où vous irez, mais vous allez prendre de la pénicilline, 8 jours avant et 8 jours après. Je vous fais l'ordonnance. » Ni lui ni moi n'avions prononcé le mot « avortement » une seule fois. C'était une chose qui n'avait pas de place dans le langage.
Qui n'avait pas de place dans le langage, qui n'avait pas de place non plus dans la communication à la radio, à la télévision, qui n'avait de place finalement nulle part à l'époque. Et simplement à l'époque, il y avait, comme le disait tout à l'heure Annie Ernaux, des petites chansons, et on va vous en passer une. Dans la chanson, c'est le temps de l'amour. Pour Annie, c'est le temps de l'angoisse, de l'attente, puis la rencontre recherchée avec LB qui lui donne l'adresse tant espérée.
On arrivait à la mi-décembre. Mes fesses et mes seins tendaient mes robes. J'étais lourde, mais les nausées avaient cessé. Il m'arrivait d'oublier que j'étais enceinte de 2 mois. C'est sans doute à cause de cet effacement de l'avenir par lequel l'esprit endort lui-même l'angoisse de l'échéance, qu'il sait pourtant inévitable, que des filles laissaient passer les semaines puis les mois jusqu'au terme. Allongée sur mon lit, dans le soleil d'hiver qui emplissait la vitre, j'écoutais les concertos brandebourgeois. Exactement comme l'année précédente, j'avais l'impression que rien n'avait changé dans ma vie. Dans mon journal, j'ai l'impression d'être enceinte avec abstraction. Je me touche le ventre, c'est là, et pas davantage d'imagination. Si je laisse faire le temps, en juillet prochain, on sortira un enfant de moi. Mais je ne le sens pas. Une dizaine de jours avant Noël, quand je n'y comptais plus, LB a frappé à la porte de ma chambre. Janté l'avait croisée dans la rue et avertie de mon désir de la voir. Elle avait toujours ses grosses lunettes à monture noire, intimidantes. Elle me souriait. Nous nous sommes assises sur mon lit. Elle m'a donné l'adresse de la femme à qui elle avait eu affaire. Une aide-soignante d'un certain âge qui travaillait dans une clinique, Madame P.R., impasse Cardinet, dans le 17e arrondissement de Paris. J'ai dû rire au mot « impasse », qui parachevait la figure romanesque et sordide de la faiseuse d'anges, car elle a précisé que l'impasse Cardinet donnait dans la grande rue Cardinet. Je ne connaissais pas Paris. Cette rue ne m'évoquait rien d'autre qu'un magasin de bijoux, le comptoir Cardinet, dont on entendait la publicité tous les jours à la radio. LB m'exposait avec tranquillité, enjouement même, la façon de procéder de Madame PR. À l'aide d'un spéculum, elle introduisait une sonde dans le col de l'utérus. Il n'y avait plus qu'à attendre la fausse couche. Une femme sérieuse et propre qui faisait bouillir ses instruments. Tous les microbes, cependant, n'étaient pas détruits par l'ébullition et LB avait attrapé une septicémie. Cela ne m'arriverait pas si je me faisais prescrire des antibiotiques aussitôt après chez un généraliste sous un prétexte quelconque. Je lui ai dit que j'avais déjà une ordonnance de pénicilline. Tout paraissait simple et rassurant, après tout. LB était devant moi, elle s'en était sortie. Madame PR prenait 400 francs. LB m'a spontanément proposé de me les avancer. Une adresse et de l'argent, c'était les seules choses au monde dont j'avais besoin à ce moment-là.
Annie passe les vacances de Noël avec des amis, puis se rend à Paris prendre contact.
Le mercredi 8 janvier, je suis allée à Paris pour rencontrer la femme et régler avec elle les détails pratiques, le jour, l'argent. Des milliers de filles ont monté un escalier, frappé à une porte derrière laquelle il y avait une femme dont elles ne savaient rien, à qui elles allaient abandonner leur sexe et leur ventre. Et cette femme, la seule personne alors capable de faire passer le malheur, ouvrait la porte en tablier et en pantalon et en pantoufles à pois, un torchon à la main. « C'est pourquoi, mademoiselle ?» J'étais debout près du lit, face à cette femme au teint grisâtre qui parlait vite, avec des gestes nerveux. C'est à elle que j'allais confier l'intérieur de mon ventre. C'est ici que tout se jouerait. Elle m'a dit de revenir le mercredi suivant, seul jour où elle pouvait rapporter un spéculum de la clinique où elle travaillait. Elle me poserait une sonde, sans rien d'autre, ni eau savonneuse, ni eau de Javel. Elle m'a confirmé son tarif, 400 francs en liquide. Elle prenait les choses en main avec détermination, sans familiarité, elle ne tutoyait pas, et discrète, elle ne posait aucune question. Elle allait à l'essentiel, date des dernières règles, prix, technique utilisée. Cette matérialité pure avait quelque chose d'étrange et de rassurant. Ni sentiment, ni morale. Par expérience, Madame PR savait certainement qu'un discours limité aux détails pratiques éviter les larmes et les épanchements qui font perdre du temps ou changer d'avis. Plus tard, en me rappelant ses yeux clignotant rapidement, sa lèvre inférieure qu'elle rentrait et mâchouillait par intervalles, quelque chose d'imperceptiblement traqué en elle, je penserais qu'elle aussi avait peur. Mais de la même façon que rien n'aurait pu m'empêcher d'avoir un avortement, rien ne pouvait l'arrêter d'en faire. À cause de l'argent, naturellement. Peut-être aussi d'un sentiment d'être utile aux femmes. Ou encore, pour elles qui vidaient à longueur de journée les bassins des malades et des accouchés, la satisfaction secrète d'avoir dans son deux pièces, passage cardiné, le même pouvoir que les médecins qui lui disaient à peine bonjour. Il fallait donc prendre cher, pour les risques, pour ce savoir qui ne serait jamais reconnu, et la honte qu'on aurait d'elle ensuite.
Donc, pour la faiseuse d'ange, comme pour Annie, tout est décidé, tout est prêt. Reste le récit de l'intervention elle-même.
Le mercredi 15 janvier, j'ai pris un train pour Paris en début d'après-midi. Je suis arrivée dans le 17e, plus d'une heure avant le rendez-vous fixé avec Madame P.R. J'ai erré dans les rues autour du passage Cardiné. Il faisait doux, humide. Je suis entrée dans une église, Saint-Charles-Borromée, où je suis restée longtemps, assise en demandant de ne pas souffrir. Madame P.R. avait tout préparé. J'ai vu sur le gaz une casserole d'eau bouillante où devaient se trouver les instruments. Elle m'a fait passer dans la chambre, elle semblait pressée de s'y mettre. Dans le prolongement du lit, elle avait installé une table recouverte d'une serviette de toilette blanche. J'ai enlevé mon collant, mon slip. Il me semble que j'ai conservé ma jupe noire parce qu'elle était évasée. Elle ne cessait pas de parler en s'affairant, spécifiant une nouvelle fois qu'elle introduisait juste la sonde, rien d'autre. Elle m'a cité le cas d'une mère de famille trouvée morte la semaine d'avant, laissée sur la table de la salle à manger par une femme qui avait injecté de l'eau de Javel. Elle s'est assise devant la table, au pied du lit. Je voyais la fenêtre avec des rideaux, d'autres fenêtres de l'autre côté de la rue, la tête grise de Madame P.R. entre mes jambes. Je n'avais pas imaginé que je puisse être là. Peut-être ai-je pensé aux filles qui, au même moment, étaient penchées sur des livres à la fac, à ma mère en train de repasser en chantonnant, à P. marchant dans une rue de Bordeaux. Mais on n'a pas besoin de penser les choses pour qu'elles soient autour de soi, et c'est sans doute de savoir que le cours de la vie continuait comme avant pour la plupart des gens qui me poussait à me répéter « Qu'est-ce que je fais là ?» Pendant des années, j'ai vu cette chambre et ses rideaux comme je les voyais depuis le lit où j'étais couchée. Elle est peut-être devenue une pièce claire, meublée Ikea, à l'intérieur d'un appartement de jeune cadre qui a acheté tout l'étage. Mais rien ne peut empêcher ma certitude qu'elle garde le souvenir des filles et des femmes venues s'y faire transpercer d'une sonde. Il y a eu une douleur atroce. Elle disait « Arrêtez de crier, mon petit, et il faut bien que je fasse mon travail. » Ou peut-être d'autres mots encore qui ne signifiaient qu'une chose, l'obligation d'aller jusqu'au bout. Des mots que j'ai retrouvés ensuite dans des récits de femmes qui avortaient clandestinement, comme s'il ne pouvait y avoir à ce moment-là que ces mots de la nécessité et parfois de la compassion. Je ne sais plus combien de temps cela lui a pris pour enfoncer la sonde. Je pleurais, j'ai cessé d'avoir mal, seulement une sensation de pesanteur dans le ventre. Elle a dit que c'était fini, je ne devais toucher à rien. Elle avait mis une grosse couche de coton au cas où je perdrais de l'eau. Je pouvais aller au cabinet tranquillement, marcher. Dans un ou deux jours, ça partirait. Sinon, il fallait lui téléphoner. Au dehors, tout est devenu brusquement irréel. Nous marchions l'une à côté de l'autre, au milieu de la chaussée, et nous avancions vers le fond du passage, Cardiné, dont la perspective paraissait barrée par le mur d'un immeuble, ne laissant qu'une forme de clarté. C'est une scène lente. Le jour n'est plus très clair. Rien de mon enfance et de ma vie d'avant ne me conduit à être là. Nous avons croisé des passants. Il me semblait qu'ils me regardaient et qu'à voir notre couple, ils savaient ce qui venait d'avoir lieu. Je me sentais abandonnée du monde, sauf de cette vieille femme en manteau noir qui m'accompagnait comme si elle était ma mère. Dans la lumière de la rue, hors de son antre, avec sa peau grise, elle m'inspirait de l'aversion. La femme qui me sauvait ressemblait à une sorcière ou une vieille maquerelle. Elle m'a donné un ticket et elle a attendu avec moi sur le quai qu'un train arrive pour Saint-Lazare. Le rôle pratique de Madame P.R. s'arrête ici. Elle avait fini sa tâche, lancé le programme qui efface le malheur. Elle n'était pas payée pour m'assister dans la suite.
Oui, parce que, bien sûr, il y a une suite. Comme Annie vous l'a dit, on lui a posé une sonde et spontanément, en principe, la fausse couche, entre guillemets, doit se produire quelques jours plus tard. Le lundi matin, il y avait 5 jours que je vivais avec une sonde. Vers midi, j'ai pris le train pour Yvetot, un aller-retour rapide chez mes parents, redoutant de ne pas être en état de les voir le samedi suivant. Peut-être, comme d'habitude, ai-je tiré à pile ou face pour savoir si j'avais le temps de prendre un tel risque. C'était le redout. Ma mère avait ouvert les fenêtres des chambres. J'ai vérifié mon slip. Il était trempé de sang et d'eau s'écoulant le long de la sonde qui commençait à ressortir du sexe. Je voyais les petites maisons basses du quartier, les jardins, le même paysage depuis l'enfance. Je suis rentrée à la cité. En descendant du train, j'ai couru à la cité. Je me suis couchée et j'ai commencé à me cramponner à la tête du lit en me retenant crier. J'ai vomi. Plus tard, mon amie O est entrée. Elle était allée au cinéma, le film était fini. Elle s'est assise près de moi, ne sachant quoi faire, me conseillant de respirer comme les femmes dans l'accouchement sans douleur, à la manière d'un petit chien. Je ne pouvais halter qu'entre les douleurs et elle n'arrêtait pas. Il était plus de minuit. O est partie se coucher en me disant de l'appeler si j'avais besoin d'elle. Nous ne savions ni l'une ni l'autre à quoi la suite ressemblerait. Je me revois, on était toutes les deux assises dans ma chambre. Je me suis en fait assise sur le lit avec le fœtus qui était sorti entre mes jambes. Nous ne savions pas quoi faire. J'ai dit à O qu'il fallait couper le cordon. Elle a pris des ciseaux, mais nous ne savions pas à quel endroit il fallait couper. Enfin, elle l'a fait. Nous avons regardé le corps minuscule avec une grosse tête, sous les paupières transparentes, des yeux qui faisaient 2 taches bleues. On aurait dit une poupée indienne. Nous avons regardé le sexe, il nous a semblé voir un début de pénis. Enfin, j'ai été capable de fabriquer ça. Oh, elle s'était assise sur le tabouret, elle pleurait. Nous avons pleuré silencieusement. C'était une scène sans nom, la vie et la mort en même temps. Une scène de sacrifice. Nous ne savions pas quoi faire du fœtus. O est allé chercher dans sa chambre un sac à biscottes vide et je l'ai glissé dedans. Je suis allée jusqu'aux toilettes. C'était comme une pierre à l'intérieur. J'ai retourné le sac au-dessus de la cuvette. J'ai tiré la chasse. Au Japon, on appelle les embryons avortés Misuko, les enfants de l'eau. Je perdais du sang. Je n'y avais pas d'abord pris garde, je croyais que tout était fini, mais le sang sortait par saccades du cordon coupé. Avec l'entrée en scène du médecin des urgences, c'est la seconde partie de la nuit qui commence. D'expérience pure de la vie et de la mort, elle est devenue exposition et jugement. Il s'est assis sur le lit, il m'a saisi le menton. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Comment as-tu fait ça? Réponds! Il me fixait avec des yeux étincelants. Je le suppliais de ne pas me laisser mourir. Regarde-moi, jure-moi que tu ne le feras plus, jamais! Alors, à cause de ses yeux fous, j'ai cru qu'il était capable de me laisser mourir si je ne jurais pas. Et il a sorti son bloc d'ordonnance. Tu vas aller à l'Hôtel Dieu. J'ai dit que je préférais aller dans une clinique. Fermement, il a répété: À l'Hôtel Dieu! Me signifiant que la seule place d'une fille comme moi, c'était à l'hôpital. Il m'a demandé de lui payer sa visite. Je ne pouvais pas me lever, il a ouvert le tiroir de mon bureau, il y a pris l'argent dans mon porte-monnaie. On m'a descendu de la chambre sur une civière. Tout était flou, je n'avais pas mes lunettes. Les antibiotiques, le sang froid de la première partie de la nuit n'avaient donc servi à rien, cela finissait à l'hôpital. J'avais le sentiment de m'être bien conduite jusqu'à l'hémorragie. Je cherchais la faute, il n'y en avait pas. Si, peut-être, avoir coupé le cordon qu'il n'aurait pas fallu couper, nous n'avions rien maîtrisé. Dans la salle d'opération, j'ai été nue, les jambes relevées et sanglées dans des étriers, sous une lumière violente. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait m'opérer, il n'y avait plus rien à me retirer. J'ai supplié le jeune chirurgien de me dire ce qu'il allait faire. Il s'est planté devant mes cuisses ouvertes en hurlant « Je ne suis pas le plombier !» Ce sont les dernières paroles que j'ai entendues avant de sombrer dans l'anesthésie. Je ne suis pas le plombier ! Cette phrase, comme toutes celles qui jalonnent cet événement, des phrases très ordinaires, proférées par des gens qui les disaient sans réfléchir, déflagrent toujours en moi. Ni la répétition, ni un commentaire sociopolitique ne peuvent en atténuer la violence. Je ne m'attendais pas à ça. Fugitivement, je crois voir un homme en blanc, avec des gants en caoutchouc, qui me roue de coups en hurlant « Je ne suis pas le plombier !» Et cette phrase, que lui avait peut-être inspiré un sketch de Fernand Reynaud qui faisait fureur à l'époque et faisait rire toute la France, continue de hiérarchiser le monde en moi, de séparer, comme à coup de trique, les médecins des ouvriers et des femmes qui avortent, les dominants des dominés. Annie se réveille de son anesthésie et reste plusieurs jours hospitalisée. Elle nous livre ses souvenirs par petites touches successives. Elle nous dit aussi sa conclusion de cet événement.
L'interne de la nuit précédente est passé. Il est resté au fond de la chambre. Il semblait gêné. J'ai cru qu'il avait honte de m'avoir maltraité dans la salle d'opération. J'étais embarrassée pour lui. Je me trompais. Il avait seulement honte d'avoir, parce qu'il ne savait rien de moi, traité une étudiante de la fac de lettres comme une ouvrière du textile ou une vendeuse de monoprix, ainsi que je l'ai découvert le soir même. Toutes les lumières étaient éteintes depuis assez longtemps. La garde de nuit, une femme à cheveux gris, est revenue dans ma chambre, s'est approchée silencieusement jusqu'à la tête de mon lit. Dans la pénombre de la veilleuse, je la voyais bienveillante. Elle m'a chuchoté d'une voix grondeuse. La nuit dernière, pourquoi vous n'avez pas dit au docteur que vous étiez comme lui ? Après quelques secondes d'hésitation, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. De son monde à lui. Il avait appris que j'étais étudiante seulement après le curetage, sans doute par ma carte de la nef. Elle mimait l'étonnement et la colère de l'interne. Mais enfin, pourquoi elle ne me l'a pas dit ? Pourquoi ? Comme indignée elle-même de mon attitude. J'ai dû penser qu'elle avait raison et que c'était ma faute s'il s'était conduit violemment. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Mes seins se sont mis à gonfler et à me faire mal. On m'a dit que c'était la montée laiteuse. Je n'avais pas imaginé que mon corps puisse fabriquer du lait pour nourrir un fœtus mort de 3 mois. La nature continuait de travailler mécaniquement dans l'absence. On m'a emmailloté le buste avec une bande de tissu. Chaque tour m'aplatissait de plus en plus les seins, comme pour me les faire rentrer à l'intérieur. J'ai pensé qu'ils ne se redresseraient jamais. Une soignante a déposé un broc de tisane sur la table de nuit. Quand vous aurez bu tout ça, vous n'aurez plus mal aux seins. À Jean T, LB et JB, venus me voir ensemble, j'ai fait le récit de l'hémorragie et de la prise en charge punitive de l'Hôtel Dieu. Une narration sur le mode de l'humour qui leur faisait plaisir à entendre, où n'apparaissait aucun des détails dont je n'ai cessé ensuite de me souvenir. LB et moi, nous comparions avec jubilation nos avortements. JB racontait que l'épicière du coin de la rue lui avait dit que ce n'était pas la peine d'aller à Paris pour avorter, il y avait une femme tout près dans le quartier qui ne prenait que 300 francs. On plaisantait sur les 100 francs que j'aurais pu économiser. On pouvait rire maintenant des vexations et de la peur, de tout ce qui n'avait pas empêché qu'on transgresse la loi. J'ai quitté l'Hôtel Dieu le samedi 25 janvier. LB et JB se sont chargés des formalités et m'ont conduite à la gare. De la poste à côté, j'ai appelé le docteur N pour lui annoncer que c'était fini. Il m'a conseillé de reprendre de la pénicilline. On ne m'avait donné aucun médicament à l'hôpital. Je suis rentrée chez mes parents, prétextant une grippe pour me coucher immédiatement. Je leur ai demandé de faire venir le docteur V qui soignait toute la famille. Prévenu de mon avortement par le docteur N, il devait m'ausculter discrètement et prescrire la pénicilline. J'écoutais dans ma chambre la Passion selon saint Jean de Bach. Quand s'élevait la voix solitaire de l'évangéliste récitant en allemand la Passion du Christ, il me semblait que c'était mon épreuve d'octobre à janvier qui était racontée dans une langue inconnue. Puis venaient les chœurs. Wohin, wohin, un horizon immense s'ouvrait, la cuisine du passage cardiné, la sonde, et le sang se fondait dans la souffrance du monde et la mort éternelle. Je me sentais sauvée. Je marchais dans les rues avec le secret de la nuit du 20 au 21 janvier dans mon corps, comme une chose sacrée. Je ne savais pas si j'avais été au bout de l'horreur ou de la beauté. J'éprouvais de la fierté, sans doute la même que les navigateurs solitaires, les drogués et les voleurs, celle d'être allé jusqu'où les autres n'envisageront jamais d'aller. C'est sans doute quelque chose de cette fierté qui m'a fait écrire ce récit. Je suis retournée chez le docteur N. Après un examen minutieux, il m'a dit en souriant sur un ton d'éloge et de satisfaction que je m'en étais bien sortie. À son insu, lui aussi m'incitait à transformer la violence subie en victoire individuelle. Il m'a fourni comme moyen de contraception un diaphragme à poser au fond du vagin et deux tubes de gelée spermicide. Pendant des années, la nuit du 20 au 21 janvier a été un anniversaire. Je sais aujourd'hui qu'il me fallait cette épreuve et ce sacrifice pour désirer avoir des enfants, pour accepter cette violence de la reproduction dans mon corps et devenir à mon tour lieu de passage des générations. J'ai fini de mettre en mots ce qui m'apparaît comme une expérience humaine totale, de la vie et de la mort, du temps, de la morale et de l'interdit, de la loi, une expérience vécue d'un bout à l'autre au travers du corps. J'ai effacé la seule culpabilité que j'ai jamais éprouvée à propos de cet événement, qu'il me soit arrivé et que je n'en ai rien fait. Comme un don reçu et gaspillé, car par-delà toutes les raisons sociales et psychologiques que je peux trouver à ce que j'ai vécu, il en est une dont je suis sûre plus que tout. Les choses me sont arrivées pour que j'en rende compte, et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général.
Quelque chose d'intelligible et de général, oui, c'est un petit peu la leçon de ce roman, l'événement. Et même si, justement, la mémoire d'Annie Ernaux ou Annie Duchesne lui a été fidèle, eh bien, nous vous quitterons sur Jeanne Moreau qui, elle, a la mémoire qui flanche.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup les mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais. Comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur? Pour un non, pour un oui. J'ai la mémoire. Je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé, de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour.
is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika.